Saïd Dinit, vous êtes représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest. À ce titre, j'aimerais savoir quels sont les derniers développements que vous avez au sujet de la situation au Mali.
Les derniers développements, comme vous savez, portent sur les efforts de la délégation de chefs d'État de la CEDEAO, qui, à l'issue du sommet d'Abidjan de la CEDEAO, ont décidé de se rendre à Bamako suite à une première visite qui a été effectuée par les chefs d'État-major des pays de la CEDEAO à la demande des chefs d'État, pour essentiellement expliquer clairement à la junte qu'il n'y a pas d'option du coup d'État et qu'il faudrait que les autorités démocratiques soient rétablies dans leur fonction et que l'ordre constitutionnel soit rétabli immédiatement. Voilà un peu le message que devait porter la délégation de la CEDEAO, mais malheureusement, comme vous savez, je crois qu'un certain nombre de manifestations ont été organisées à l'aéroport qui n'ont pas permis à la délégation d'atterrir à Bamako.
Est-ce que le fait que les chefs d'État n'ont pas pu atterrir à Bamako constituerait un blocage par rapport à la suite des négociations avec la junte malienne?
C'est une indication de l'absence de coopération qui est affichée a priori par la junte vis-à-vis de la CEDEAO et de la position adoptée par la CEDEAO. J'espère que la junte fera vite de revoir sa position et de créer les conditions pour un engagement direct autour de la nécessité de rétablir rapidement l'ordre constitutionnel, comme cela a été demandé par la CEDEAO, par l'Union africaine et les Nations unies.
Est-ce qu'avec cette impasse d'hier, est-ce qu'on tend peut-être vers l'application des sanctions décidées lors du sommet d'Abidjan?
J'ai appris que lors d'un mini-sommet à Abidjan hier, suite au fait que les chefs d'État n'ont pas pu se rendre à Bamako comme envisagé, j'ai appris par les médias et par d'autres sources qu'effectivement la réaction des chefs d'État, c'est de mettre en œuvre les sanctions immédiatement qui ont été déjà retenues contre le Mali en cas de non-coopération. Mais je dois encore établir le contact avec le président de la commission de la CEDEAO pour avoir des informations plus à jour par rapport à la décision du sommet de la CEDEAO.
Alors, c'est des sanctions contre la junte, les responsables de la junte, mais est-ce qu'il y aurait peut-être des craintes que ces sanctions aient un impact par rapport aux populations civiles?
Il y a toujours cette crainte chaque fois qu'on prend des sanctions, mais ce que visait le sommet en envisageant des sanctions, c'était des sanctions qui frappaient d'abord les membres de la junte eux-mêmes et de ne pas leur donner les moyens de mettre en œuvre leur agenda, qui est évidemment en violation des principes de la CEDEAO et de l'Union africaine.
Est-ce que vous avez des nouvelles de l'ancien président Amadou Toumani Touré?
Lors du sommet il y a 2 jours, le président de Ouattara, de Côte d'Ivoire, qui est aussi président de la CEDEAO, a informé le sommet qu'il a eu l'occasion de s'entretenir avant-hier avec le président ATT et qu'il a assuré qu'il était sauf. Et il était dans un endroit évidemment, mais sauf. Et vous avez dû remarquer que le sommet a lancé un appel à la junte pour s'assurer de la protection et de la sécurité non seulement du président du Mali, mais aussi de toutes les personnes qui ont été arrêtées et a exigé leur libération immédiate.
Êtes-vous en contact avec lui ou bien avec ses proches ces derniers jours?
Je n'ai pas été en contact personnellement avec le président Toumani Touré depuis les événements, mais je suis en contact avec évidemment des parties prenantes maliennes, y compris des membres de son gouvernement.
Avec cette situation au Mali, mais aussi l'incertitude par rapport au deuxième tour en Guinée-Bissau et l'impasse sur les législatives en Guinée-Conakry, pour cette sous-région qui vient juste de voir le bout du tunnel, est-ce qu'il y a des craintes d'un retour à la case départ en Afrique de l'Ouest?
Non, je ne crois pas qu'on puisse parler de retour à la case départ en Afrique de l'Ouest, parce que je crois que l'Afrique de l'Ouest a fait beaucoup de chemin. Pour une bonne partie, c'est un chemin irréversible. Vous avez, malheureusement, le coup d'État est venu nous rappeler un peu la fragilité et la précarité de la situation. Même si personne ne peut remettre en cause et ne peut douter des progrès fondamentaux qui sont faits pour l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, les coups d'État sont condamnés et rejetés par la communauté ouest-africaine, par la population, par la société civile. Il y a eu un coup d'État au Mali, ce qui est regrettable, mais en même temps, il y a eu une victoire magnifique de la démocratie au Sénégal. Donc l'Afrique de l'Ouest bouge dans la bonne direction, mais malheureusement, quand on bouge, il y a de temps en temps des incidents de parcours, et c'est un incident malheureux, condamnable, et inacceptable et injustifiable au Mali. La Guinée-Bissau, je crois, fait son petit chemin. C'est vrai qu'il y a eu un premier tour qui s'est passé plutôt dans de bonnes conditions, comme l'ont salué tous les observateurs qui étaient à Bissau pour le scrutin. Aujourd'hui, il y a des difficultés. C'est pour ça que la communauté internationale est aux côtés de la Guinée-Bissau pour les aider à traverser ce moment difficile et à créer les conditions pour un deuxième tour apaisé. Et je me félicite du fait que des groupes se sont constitués au niveau de la Guinée-Bissau pour faciliter un dialogue entre toutes les parties prenantes. Et j'espère que ce dialogue parviendra à trouver des solutions pour que le deuxième tour ait lieu dans les meilleures conditions possibles.
Monsieur Guinée, merci beaucoup. Merci.